Évangile selon Jean, chapitre 10. Le berger, les brebis et le portier, versets 1 à 6.
Lecture de la parole. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un larron. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. À celui-ci, le portier ouvre, et les brebis écoutent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. Et quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent pas ce que c'était qu'il leur disait.
Lecture de l'étude. Jésus commence les enseignements de ce merveilleux chapitre en disant « en vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un larron. » Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, versets 1 et 2. La bergerie représente Israël séparé des autres peuples, parqué en dehors des nations païennes. Dieu lui avait donné sa loi et beaucoup d'avantages spirituels et matériels. Mais ce peuple privilégié fut bientôt corrompu. Ayant abandonné la loi, il se plongea dans l'idolâtrie et tous les péchés qui l'accompagnent. Aux jours où le Seigneur était ici-bas, on observait les formes de la religion de Moïse depuis le retour de la captivité babylonienne, mais on manifestait une opposition violente à Jésus et à ses enseignements. Cependant, il y avait dans ce milieu ceux qui écoutaient le Seigneur et croyaient en lui. Il les appelle ses brebis. Mélangés au peuple, ils étaient gouvernés par des conducteurs, les chefs religieux de la nation, prétendus bergers, qui s'occupaient davantage de leurs propres intérêts que de ceux des brebis. Ézéchiel leur reproche leur conduite et annonce à partir du verset 11 du chapitre 34 la venue d'un berger fidèle et plein d'amour pour les brebis. Ézéchiel chapitre 34 versets 1 à 11.
Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur à ces pasteurs, ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Vous mangez la graisse et vous vous habillez de la laine. Vous égorgez ce qui est engraissé. Vous ne paissez pas le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les brebis faibles, et vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades, et vous n'avez pas bandé celles qui étaient blessées, et vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées, et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez gouvernées avec dureté et rigueur, et elles ont été dispersées parce qu'il n'y avait pas de pasteurs, et elles étaient la pâture de toutes les bêtes des champs, et elles ont été dispersées. Mes brebis ont erré dans toutes les montagnes et sur toute haute colline, et mes brebis ont été dispersées sur toute la face du pays, et il n'y a eu personne qui les ait recherchées, personne qui se soit enquis d'elles. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis ont été une proie, et que mes brebis ont été la pâture de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, et que mes pasteurs n'ont pas cherché mes brebis, mais que les pasteurs se paissaient eux-mêmes et ne paissaient pas mes brebis. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à ces pasteurs, et je réclamerai mes brebis de leurs mains, je les ferai cesser de paître le troupeau, et les pasteurs ne se paîtront plus eux-mêmes. Et je délivrerai mes brebis de leur bouche, et ils ne les mangeront plus. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, me voici, moi, et je rechercherai mes brebis, et j'en prendrai soin. »
On fera bien de lire ce chapitre en entier et avec attention. Ce berger est Jésus, tel qu'il fut alors dans ce monde, mais aussi tel qu'il sera dans les temps à venir, le véritable roi berger du nouvel Israël. Durant toute l'histoire de ce peuple, et particulièrement à l'époque où le Seigneur était sur la terre, on vit des hommes s'attribuer les fonctions de berger, mais sans amour pour les brebis, ne cherchant dans la position qu'ils prenaient que leurs propres intérêts. Ézéchiel chapitre 34, versets 3 à 6, versets 8, versets 10, versets 19. Zacharie 11, versets 4 et 5.
Ainsi dit l'Éternel, mon Dieu, paie le troupeau de la tuerie, que leurs possesseurs tuent sans passer pour coupable, et dont les vendeurs disent, béni soit l'Éternel, je me suis enrichi, et leur berger ne les épargne pas.
Ces passages décrivent précisément l'état de choses tel qu'il existait au temps de Jésus. Aucun de ces hommes n'avait été établi par Dieu, aucun ne portait les caractères requis par lui pour être berger. Dieu, qui est le portier, n'avait pu leur ouvrir la porte. Ils s'étaient introduits par ailleurs, établis eux-mêmes, ils portaient les caractères de voleurs. Enfin, le berger promis arriva. Jésus vint au milieu de son peuple en suivant le chemin indiqué à l'avance par les Écritures et portant les caractères annoncés par les prophètes. À lui, le portier ouvrit. Mais on remarquera que, lorsqu'il entre, ce n'est pas pour paître les brebis dans la bergerie, enclose ou bâtiment qui les abrite et les garantit des dangers auxquels elles sont exposées, en Orient surtout, où les bêtes sauvages guettent leur proie durant la nuit. Pour paître les brebis, il faut les conduire dehors. Jésus dit de celui qui entre par la porte, et c'est lui-même, à celui-ci le portier ouvre. Et les brebis écoutent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. Verset 3. Voilà une œuvre toute nouvelle. Les brebis écoutent la voix du berger, c'est ce qui seul leur donne le caractère de brebis. Le berger connaît leur nom et les mène dehors, la bergerie juive n'étant plus le lieu où les véritables brebis peuvent rester. Nous l'avons vu avec l'aveugle né. Jusque-là, personne n'avait le droit de la quitter, et même beaucoup de brebis juives ont eu grand-peine à s'y résoudre. On voit, dans le livre des Actes, nombre de chrétiens montrer du zèle pour la loi qui, cependant, ne leur avait pas donné la vie. Mais ce n'est pas le sujet traité ici. Ce que le Seigneur affirme, au contraire, c'est que les brebis écoutent sa voix, puisqu'il les a appelées par leur nom, ce qui montre qu'il connaît parfaitement chacune d'elles. Et quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent pas ce que c'était qu'il leur disait, versets 4 à 6. Les brebis commencent par écouter la voix du berger. Elles parlent à leur cœur, gagnent leur confiance, ce qui les engage à le suivre hors du milieu qui lui est opposé, où elles ne trouvent ni pâture ni liberté. Une fois dehors, le berger va devant elles pour les conduire. Elles le suivent. Il ne requiert d'elles que d'écouter sa voix et de le suivre. Une chose ne va pas sans l'autre. Il se charge de leur trouver les gras pâturages et les eaux paisibles dont parle le psaume 23. Jamais les brebis n'ont le souci de chercher leur nourriture lorsqu'elles sont conduites par un berger attentif à tous leurs besoins. Elles ne suivent point un étranger parce qu'elles ne connaissent pas sa voix et savent discerner celle du berger. La pécheresse du chapitre 7 de Luc, par exemple, avait trouvé dans le Seigneur la voix de la grâce qui ne s'était fait entendre à personne jusqu'alors. « Ta foi t'a sauvé, va-t'en en paix. » Supposons qu'un chef du peuple, prétendu berger en Israël, lui eût dit « Si tu ne fais pas ce que la loi commande, tu ne peux être sauvé. » Elle aurait bien vite discerné que cette voix n'était pas celle du bon berger qui avait rempli son cœur de paix, de joie et de reconnaissance. L'aveugle du chapitre précédent avait bien compris que les voix des pharisiens étaient tout autres que celles qui lui avaient dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé ». Le Seigneur ne demande de ses brebis aucune capacité, sinon celle d'écouter sa voix pour le suivre. Puissions-nous être toujours mieux exercés à connaître cette voix dans les temps où nous vivons, car beaucoup de voix étrangères se font entendre, quelques-unes imitant d'assez près celles du bon berger pour que les brebis se laissent tromper. Remarquons que le Seigneur ne dit pas que les brebis doivent le suivre, mais qu'elles le suivent, qu'elles connaissent sa voix, mais non celle des étrangers, qu'elles s'enfuient d'eux. Il donne les vrais caractères des brebis. C'est à chacun des croyants de se demander s'il les réalise. Pour le faire, il faut apprécier la grâce que le Seigneur est venu apporter et apprendre toujours mieux à le connaître. Nous venons de voir que la bergerie est Israël, le berger Jésus, et le portier qui ouvre la porte au vrai berger est Dieu. Dans les versets qui suivent, nous verrons Jésus sous le caractère de porte pour introduire les brebis dans un nouvel état de choses. Jésus, la porte des brebis, versets 7 à 10.
Lecture de la parole. Jésus donc leur dit encore, « en vérité, je vous dis que moi je suis la porte des brebis. Tous, autant qu'il en est venu avant moi, sont des voleurs et des larrons. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera, et il sortira, et il trouvera de la pâture. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. »
Lecture de l'étude. En vérité, je vous dis que moi je suis la porte des brebis. Tous autant qu'il en est venu avant moi sont des voleurs et des larrons. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera, et il sortira, et il trouvera de la pâture. Versets 7 à 9. Dieu avait ouvert la porte de la bergerie au vrai berger pour en faire sortir ses brebis qui, en Israël, étaient sous la malédiction de la loi. Maintenant, il fallait une porte pour les faire entrer dans le nouvel état de choses, le christianisme, qui n'est pas une bergerie, mais où les croyants forment un troupeau. Christ lui-même est la porte. C'est par lui qu'on entre. Nul ne peut être sauvé par un autre moyen. Il s'agit de cela avant tout, car le fait d'être juif ne sauve pas, pas plus que celui de n'être chrétien que de nom. Puis, par cette porte, il entrera et il sortira, ce qui ne veut pas dire que l'on peut entrer et sortir du christianisme, mais que la brebis jouit d'une pleine liberté, que la loi ne donnait pas, pas plus qu'elle ne donnait le salut, et d'une nourriture abondante, ce que le psaume 23 présente avec tant de beauté. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Les gras pâturages représentent les bénédictions spirituelles, toutes concentrées dans la personne de Christ. Hors de lui, c'est le désert qui ne fournit rien pour la brebis. Tous ceux qui étaient venus avant Jésus n'étaient que des voleurs et des larrons, et les brebis ne les ont pas écoutés. Les voleurs et les larrons s'approprient ce qui ne leur appartient pas, mais il y a une nuance entre eux. Le voleur prend chaque fois qu'il le peut, par violence s'il le faut. Le larron agit en cachette. Le voleur est encore signalé au verset 10 pour faire ressortir la manière d'agir du véritable berger. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Avec le vrai berger, la brebis possède la vie, ainsi que la nourriture, la liberté et la sécurité. Il donnait la vie aux brebis qu'il trouvait dans la bergerie juive, mais il voulait qu'elles l'eussent en abondance. Pendant que Jésus était ici-bas, ceux qui allaient à lui avaient la vie, parce qu'il était la vie. Mais pour avoir la vie en abondance, il fallait que Christ passât par la mort et qu'il ressuscitât. Une fois ressuscité, au milieu de ses disciples, il souffla en eux l'Esprit Saint, non comme personne, mais comme vie qui, en lui, venait de passer par la mort et la résurrection. À la Pentecôte, le Saint-Esprit tomba sur les disciples assemblés, et dès lors ils eurent la vie en abondance. On comprend que cette vie-là ne pouvait être reçue avant la résurrection de Christ. Auparavant, et dès le commencement, tous les croyants étaient vivifiés. Ils possédaient la vie de Dieu. Ils en ont montré de beaux fruits, mais ils ne pouvaient distinguer en eux la vieille et la nouvelle nature, parce que la vie n'avait pas été manifestée dans la personne de Christ, venu dans ce monde pour révéler le Père, car c'est la connaissance du Père et du Fils qui caractérise la vie éternelle. Chapitre 17, verset 3.
Et c'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Le bon berger, versets 11 à 15.
Lecture de la parole. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis. Mais l'homme qui reçoit des gages et qui n'est pas le berger, à qui les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup et laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup les ravit et il disperse les brebis. Or l'homme à gages s'enfuit, parce qu'il est un homme à gage, et qu'il ne se met pas en souci des brebis. Moi, je suis le bon berger, et je connais les miens, et je suis connu des miens, comme le Père me connaît, et moi, je connais le Père, et je mets ma vie pour les brebis.
Lecture de l'étude. Au verset 11, le Seigneur se nomme le bon berger, en contraste avec les mercenaires. Autre caractère de ceux qui prétendaient paître les brebis juives. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis. Mais l'homme qui reçoit des gages et qui n'est pas le berger, à qui les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup et laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup les ravit et il disperse les brebis. Or, l'homme à gages s'enfuit parce qu'il est un homme à gage et qu'il ne se met pas en souci des brebis, versets 11 à 13. Le bon berger ne pense pas à lui-même. Venu pour ses brebis, elles lui appartiennent en propre. On peut confier un troupeau à un berger payé pour le soigner. Mais dès qu'il se voit exposé au même danger que les brebis, il ne pense qu'à sa propre sécurité et abandonne le troupeau, parce qu'il ne lui appartient pas. Jésus prend le titre de bon berger lorsqu'il parle de mettre sa vie pour ses brebis, et non seulement de prendre soin d'elles. Son amour est si grand qu'il ne tient aucun compte de sa vie, pourvu que ses brebis ne périssent pas lorsque vient le loup. C'est ce que le Seigneur a fait en allant à la croix. Il fallait nécessairement sa mort pour qu'elles eussent la vie. Mais Jésus fait ressortir ici qu'au lieu de s'épargner, il met sa vie pour ses brebis sans défense. Nous avons un exemple de cela en David. Lorsqu'il gardait le menu bétail de son père, il délivra le mouton en tuant l'ours et le lion. 1 Samuel 17, versets 34-35.
Et David dit à Saül, « Ton serviteur paissait le menu bétail de son père. » Et un lion vint et un ours, et il enleva un mouton du troupeau. Et je sortis après lui et le frappai, et je délivrai le mouton de sa gueule. Et il se leva contre moi, et je le saisis par sa barbe, et le frappai et le tuai.
En Gethsémané, le Seigneur eut affaire avec celui que le loup représente, Satan, qui aurait voulu la perte des brebis. Croyant faire reculer le Sauveur en présence de la mort par laquelle il allait être vaincu, le diable lui en présenta toute l'horreur. Mais l'amour du bon berger triompha. Il marcha à la mort, le loup redoutable fut vaincu, et les brebis délivrées de la mort éternelle. Jésus dit à ceux qui venaient s'emparer de lui, au moment de son arrestation, « Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci. » Chapitre 18, verset 8. Un tel amour touche profondément tous ceux qui en sont les objets, afin de les rendre toujours plus sensibles à sa voix pour l'écouter, le suivre et l'honorer. La jouissance de cet amour rend aussi capable de discerner les voix étrangères qui cherchent à égarer les brebis. Plus le Seigneur avance dans son discours touchant ses brebis, plus il fait ressortir ce qu'il est pour elles, ce qu'elles sont pour lui et tous leurs avantages. « Moi, je suis le bon berger, dit-il, et je connais les miens, et je suis connu des miens, comme le Père me connaît, et moi je connais le Père. » Et je mets ma vie pour les brebis, versets 14 et 15. Le bon berger connaît les siens, cela donne une confiance illimitée en lui. Il les connaît non seulement par sa toute science, mais par l'intérêt que leur porte son grand amour, toujours en activité pour chacun. Il affirme avec certitude que les brebis le connaissent. Comment en serait-il autrement si l'on jouit de son grand amour ? Le Seigneur ne suppose pas qu'il y ait affaiblissement ou défaillance dans cette connaissance. Il dit ce qui le caractérise, lui et les siens, sans parler de la manière dont les brebis réalisent cette connaissance. De son côté à lui, tout est toujours parfait. Dans quelle mesure cette connaissance est-elle réciproque? Comme le Père le connaît, et comme il connaît le Père. Une communion parfaite s'établit entre le berger et les brebis, comme entre lui et son père. Le bon berger met sa vie pour que la chose ait lieu. Une pareille position, une relation aussi bénie, dépasse infiniment tout ce que les brebis laissaient dans le milieu juif d'où elles étaient sorties, et tout ce que le croyant abandonne aujourd'hui dans le monde dont il ne fait plus partie. D'autres brebis seront amenées, verset 16.
Lecture de la parole. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène, elles aussi, et elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger.
Lecture de l'étude. Dès la mention faite de la mort de Jésus, on voit apparaître l'accomplissement des conseils de Dieu selon lesquels les croyants de toutes les nations seraient amenés à posséder des bénédictions célestes et éternelles. Jésus dit, « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène, elles aussi. Et elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Le Seigneur ne voulait pas un troupeau juif seulement, mais un troupeau composé de tous ceux qui écoutent sa voix et auxquels il donne la vie. Ces autres brebis sont les croyants appelés du milieu des gentils, œuvre qui s'accomplit par le ministère des apôtres et se poursuit jusqu'à maintenant. Jésus l'avait commencé lui-même en évangélisant les Samaritains au chapitre 4. Toutes ces brebis portent le même caractère. Elles écoutent la voix du bon berger. Bien que composé d'éléments divers, ce troupeau serait un, parce qu'ils vivraient sous les soins et sous la conduite du seul berger et posséderaient la même vie. Si l'on écoute sa voix, il est impossible que les uns soient dirigés d'une manière et les autres d'une autre. C'est pourtant ce qui est arrivé. Lorsqu'on entend un chrétien dire « moi je vois ainsi », un autre « moi je vois autrement » et qu'ils marchent chacun selon ses vues, on peut se demander quel cas on fait de la voix du bon berger. Il y a méconnaissance complète de sa pensée. Ainsi se produisent les divisions dans le seul troupeau qui cependant est un, car Jésus dit « il y aura un seul troupeau, un seul berger ». C'est un fait absolu. Pour le réaliser, il suffit d'écouter la voix du seul berger. Si l'on ne peut la discerner, c'est parce qu'on a abandonné l'autre caractère de la brebis, indiqué au verset 5. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Aujourd'hui, beaucoup courent écouter chaque voix qui se fait entendre. On s'estime capable de connaître les voix étrangères. au lieu de les discerner et de les fuir, on les prend pour celles du bon berger qui, malgré toutes les difficultés apparentes, se reconnaît parfaitement, à condition de ne pas faire valoir sa propre volonté et de le suivre dans le chemin de l'obéissance qui sort du monde et des organisations religieuses humaines pour se plier à la volonté de Dieu. Jésus donne à son Père un motif pour l'aimer, versets 17 à 21.
Lecture de la parole. À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Il y eut encore de la division parmi les Juifs à cause de ces paroles, et plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon et il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ces paroles ne sont pas d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?»
Lecture de l'étude. Jusqu'ici, Jésus a présenté son amour pour ses brebis. Cet amour devient pour elles le motif de l'aimer. Nous, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier, 1 Jean 4, verset 19. Verset 17, Jésus élève ses yeux bien au-dessus de ce qui concernait ses brebis et pense à ce que son œuvre sera pour son Père. Le Fils était aimé du Père dont il faisait les délices éternelles. Voir Proverbe 8, verset 30.
J'étais alors à côté de lui, son nourrisson, j'étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui.
Mais ici, il fournit à son Père un nouveau motif de l'aimer. Dès avant les temps, Dieu avait formé le plan merveilleux d'avoir des hommes parfaits et parfaitement heureux sur une terre nouvelle, dans la connaissance de lui-même, amour et lumière, comme objet de sa pure grâce. Mais où les prendre? Garder Adam et ses descendants dans l'innocence ne répondait pas à de tels conseils. Ils n'auraient jamais connu l'amour de Dieu, la grâce qui pardonne aux pécheurs, ôte ses péchés et le place devant lui, sainte et irréprochable en amour, dans la relation d'un enfant bien-aimé. Adam et Ève ne connaissaient ni le bien ni le mal dans leur état d'innocence. Ils ne pouvaient donc pas jouir de l'amour d'un Dieu qui pardonne aux coupables, ni de la relation d'enfant du Dieu qui est amour et lumière, révélé comme Père dans la personne de son Fils. Ils ne pouvaient jouir de la vie éternelle. Pour cela, il faut connaître le Père et le Fils. Nous savons qu'au lieu d'engendrer des enfants innocents, Adam devenu pécheur n'engendra que des pécheurs, désobéissants à Dieu, ennemi de Dieu et par conséquent passible du jugement éternel selon la justice du Dieu saint offensé. Il ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Sa justice et sa sainteté les tenaient à une éternelle distance de lui, dans les ténèbres de dehors. Mais Dieu est amour. Il voulait faire connaître cet amour. Mais comme il est juste et saint, et qu'il avait prononcé le jugement sur cette race coupable, il devait l'exécuter. Si c'était sur les hommes, tous étaient perdus. Alors Jésus vint dans ce monde, homme parfait, sans péché, et, par ce fait, apte à subir à la place des coupables le jugement qu'ils avaient mérité. Il donne sa vie. Il porte sur la croix tout le poids de la colère de Dieu. Il met fin, par sa mort, à toute l'histoire de l'homme pécheur en répondant aux exigences de la nature divine. Une fois tout accompli, il reprend sa vie en ressuscitant d'entre les morts et place en lui, devant Dieu, l'homme autrefois pécheur et perdu, dans l'état dans lequel Dieu voulait l'avoir de toute éternité. Dès lors, Dieu fut libre de donner cours à son amour infini envers des pécheurs, du moment que sa justice était satisfaite. Tous les conseils de Dieu peuvent s'accomplir. À qui Dieu doit-il de pouvoir agir de cette manière? À son Fils bien-aimé qui, en laissant sa vie, l'a pleinement glorifié. Les croyants comprennent cette parole de Jésus. À cause de ceci, le Père m'aime. C'est que moi je laisse ma vie afin que je la reprenne. Qui peut comprendre cet amour du Père pour son Fils qui a accompli l'œuvre grâce à laquelle il peut réaliser ses pensées d'amour si chères à son cœur de toute éternité? Et nous, ces heureux rachetés, quel motif n'avons-nous pas d'aimer Dieu, le Père, qui avait ses pensées envers nous, et le Fils, le Sauveur, le bon berger, qui a rendu possible leur accomplissement en se présentant à son Dieu et en disant « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Si Jésus pense à ses brebis, il donne sa vie pour elles. S'il pense à son Père, c'est pour le glorifier, en laissant sa vie pour la reprendre. Il fait tout cela par obéissance à son Père. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix, Philippiens 2, verset 8. Jésus dit, verset 18, « Personne ne me l'ôte, mais moi je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. » Quelle gloire que celle de cet homme divin! Il est obéissant, mais qui aurait eu la capacité d'accomplir un pareil acte d'obéissance, sinon le Fils de Dieu? Pour donner sa vie, il est absolument indépendant des hommes. Nous avons vu souvent dans cet évangile, et nous le verrons tout à l'heure, que les Juifs voulaient le prendre pour le faire mourir, mais ils ne le purent pas. Ils le prendront, il est vrai, mais lorsqu'il se donnera. Personne ne pouvait lui ôter la vie, il l'a laissée de lui-même. Lorsque tout fut accompli sur la croix, il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Il obéissait en mourant, comme il l'avait fait tout le long de son ministère. Il avait le pouvoir de laisser sa vie. Qui, sinon cet homme divin, aurait eu le pouvoir de laisser sa vie? Mais il le fait par obéissance. Il a aussi le pouvoir de la reprendre. Il ne le fait pas de son propre chef. Il a reçu ce commandement de son Père. Il avait dit aux Juifs, chapitre 2, verset 19, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». Lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent de ses paroles. Il parlait du temple de son corps. Toute la vie de Jésus fut un acte d'obéissance, de même que sa mort et sa résurrection. Dans cet évangile, où la gloire divine de Jésus ressort comme nulle part ailleurs, son obéissance, sa dépendance, ressortent aussi dans toute leur perfection et inséparable de sa divinité. Quel mystère glorieux et insondable que celui de l'union de la divinité et de l'humanité dans la personne de Jésus que notre salut rendait nécessaire. À l'ouïe de ces merveilleuses paroles, il y eut de nouveau de la division chez les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon et il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Versets 20 et 21. Les choses les plus glorieuses, devant lesquelles l'âme reste en contemplation et adore, passent pour folie et pour paroles de démons. Tel est l'homme naturel. Il ne reçoit pas les choses de Dieu. Elles sont folies pour ceux qui périssent. Combien cette déclaration de Paul est solennelle. Il périt, celui qui traite de folie les choses de Dieu. Jésus au portique de Salomon, versets 22 à 30.
Lecture de la parole. Or la fête de la dédicace se célébrait à Jérusalem et c'était en hiver. Et Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. Les Juifs donc l'environnèrent et lui dirent « Jusques à quand tiens-tu notre âme en suspens? Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, celles-ci rendent témoignage de moi, mais vous, vous ne croyez pas. » Car vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un.
Lecture de l'étude. Or, la fête de la dédicace se célébrait à Jérusalem et c'était en hiver. Et Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon, versets 22 à 23. Ce n'était pas une des fêtes instituées par Moïse et dont nous avons parlé au chapitre 7. Le roi de Syrie, Antiochus Épiphane, cruel persécuteur des Juifs, avait profané le temple d'une manière outrageante. Après sa mort, au temps des Maccabées, le temple fut purifié et le service rétabli. À cette occasion, il y eut une grande fête qui se célébrait dès lors chaque année au mois correspondant à décembre. C'est pourquoi il est dit que c'était en hiver. Nous ne savons pas exactement pourquoi Jésus se promenait le jour de cette fête au portique de Salomon, où l'on trouve en acte 3, verset 11, Pierre et Jean avec l'homme boiteux qui avait été guéri.
Comme ils tenaient par la main Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique appelé de Salomon.
Jésus était le vrai Salomon. Le temple lui sera dédié un jour. Voir Ézéchiel 43, verset 7.
Et il me dit, fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône et le lieu de la plante de mes pieds, où je demeurerai au milieu des fils d'Israël à toujours. Et la maison d'Israël ne rendra plus impur mon saint nom, ni eux, ni leur roi, par leur prostitution et par les cadavres de leur roi sur leur haut lieu.
Et Malachie 3, verset 1.
Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple. Et l'ange de l'Alliance en qui vous prenez plaisir, voici il vient, dit l'Éternel des armées.
Pour le moment, il est le roi rejeté. Les Juifs l'environnent et lui posent une question qui dénote le malaise de leur conscience, en présence des faits leur prouvant ce qu'il niait. Car l'incrédulité ne donne pas de repos. C'est elle qui tenait leur âme en suspens et non Jésus. Car ils luttaient contre leur conscience, avec la volonté bien arrêtée de ne pas le recevoir. « Jusques à quand tiens-tu notre âme en suspens » disent-ils. « Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, celles-ci rendent témoignage de moi. Mais vous, vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. » Versets 24 à 26. Les paroles de Jésus au chapitre 8, ses œuvres chapitre 5 et 9, ne pouvaient rendre un plus éclatant témoignage à ce qu'il était. Mais les Juifs ne voulaient pas croire. Il n'y avait aucune utilité à déclarer qu'il fut le Christ dès le moment qu'on n'acceptait pas ses témoignages. Le temps était passé pour les Juifs comme peuple. N'étant pas des brebis du bon berger, ils ne croyaient pas. Leur incrédulité donne au Seigneur l'occasion de faire ressortir encore une fois les caractères des brebis et la beauté de leurs privilèges. Il laisse les Juifs et s'occupe des siens. « Mes brebis écoutent ma voix, dit-il, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. » Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Verset 27-30. Puisque Jésus rappelle ce qui caractérise ses brebis, il n'est pas superflu de considérer ses paroles. Premier caractère, elles écoutent sa voix. Les Juifs incrédules ne l'écoutaient pas. Souvenons-nous toujours, si nous sommes une brebis de Jésus, qu'il dit de nous, elles écoutent sa voix. Comme réponse à ce caractère, Jésus dit « Et moi je les connais ». Il emploie le double pronom pour renforcer son affirmation. Précieuse déclaration pour le cœur. Le bon berger connaît chacune de ses brebis. Il a mis sa vie pour elles. Avec le même amour, il prend connaissance de tout ce qui les concerne. Ensuite, elles me suivent. À cela, Jésus répond « Et moi je leur donne la vie éternelle ». Une vie alimentée sans cesse par la connaissance du Père et du Fils. En conséquence, elles ne périront jamais. Une autre garantie, pour ainsi dire, qu'elles ne périront jamais, c'est qu'elles sont dans la main de celui qui a mis sa vie pour elles. Personne ne peut les en arracher. Puis son Père, qui les lui a données pour les amener dans une pareille bénédiction, est plus grand que tous ceux qui pourraient s'opposer à elles. Donc personne ne peut les ravir de la main de son Père. Il y a unité parfaite entre le Père et le Fils au sujet des brebis, comme en toute chose. Moi et le Père, nous sommes un. Plus le rejet de Jésus s'accentue, plus sa gloire divine resplendit. La sécurité des brebis est donc parfaite. Se sachant entre les mains du Père et du Fils, que craindrait-elle? Si quelqu'un, en lisant ces lignes, n'avait pas la certitude d'être une brebis du bon berger, qu'il s'empresse d'écouter sa voix pour jouir d'une si belle part présente et éternelle. Les Juifs veulent encore lapider Jésus, versets 31 à 42.
Lecture de la parole. Les Juifs donc levèrent encore des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, « Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème, et parce que toi étant homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « Moi j'ai dit, vous êtes des dieux ?» S'il appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, et l'Écriture ne peut être anéantie, dites-vous à celui que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde, « Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, alors même que vous ne me croiriez pas, croyez les œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi et moi en lui. » Ils cherchaient donc encore à le prendre, mais il échappa de leurs mains et s'en alla encore au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé au commencement, et il demeura là. Et plusieurs vinrent à lui, et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais toutes les choses que Jean a dites de celui-ci étaient vraies, et plusieurs crurent là en lui. »
Lecture de l'étude. Cette fois, l'évangile de Jean nous rapporte que les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus. L'Esprit de Dieu indique par ce fait la perfection de leur persévérance à se défaire de lui. Chapitre 5, versets 16 et 18.
Et à cause de cela, les Juifs persécutaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait ces choses en un jour de sabbat. À cause de cela donc, les Juifs cherchaient d'autant plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu.
Chapitre 7, versets 1 et 30.
Et après ces choses, Jésus se tenait en Galilée, car il ne voulait pas se tenir en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Il cherchait donc à le prendre, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue.
Chapitre 8, verset 59.
Ils prirent donc des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple.
10, verset 31 et 39.
Les Juifs donc levèrent encore des pierres pour le lapider. Ils cherchaient donc encore à le prendre, mais il échappa de leurs mains.
Et chapitre 11, verset 53.
Depuis ce jour-là donc, ils consultèrent ensemble pour le faire mourir.
Les Juifs donc levèrent encore des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? » Verset 31-32. Le Seigneur avait accompli beaucoup d'œuvres. L'apôtre dit, à la fin de cet évangile, que, écrites une à une, il ne pense pas que le monde pourrait contenir les livres qui en renfermeraient le récit. Mais les œuvres auxquelles le Seigneur fait allusion sont celles par lesquelles les Juifs devaient reconnaître qui il était. Notre évangile rapporte tous les miracles qui caractérisaient ses enseignements et mettait en lumière la vérité. Les Juifs répondirent, Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème, et parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu, verset 33. Cependant, au chapitre 5, verset 16, ils veulent le faire mourir, parce qu'il avait guéri un infirme le jour du sabbat. Jésus tire des Écritures la preuve qu'il ne blasphémait point en s'appelant fils de Dieu. Il cite le psaume 82, verset 6, « N'est-il pas écrit dans votre loi, moi j'ai dit, vous êtes des dieux ?» S'il appelle Dieu ceux auxquels la parole de Dieu est venue, et l'Écriture ne peut être anéantie, dites-vous à celui que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde, « Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu », verset 34 à 36. Les hommes appelés Dieu dans le psaume 82 sont les juges établis par Dieu au milieu du peuple, ses représentants. Mais infidèles dans leur service et n'ayant pas agi selon Dieu, après leur avoir dit, verset 6, « Vous êtes des dieux et vous êtes tous fils du Très-Haut », il ajoute, verset 7, « Mais vous mourrez comme un homme et vous tomberez comme un des princes ». Or si Dieu appelle Dieu des hommes auxquels il avait confié l'autorité au milieu de son peuple, pouvait-on refuser le titre de fils de Dieu à celui que le Père a sanctifié, c'est-à-dire mis à part avant que le monde fût, pour accomplir sa volonté et qu'il avait envoyé au temps convenable? Était-ce un blasphème de sa part? Dieu lui-même n'avait-il pas déclaré deux fois qu'il était son fils bien-aimé? Matthieu 3, verset 17 et chapitre 17, verset 5.
Et voici une voix qui venait des cieux disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix de la nuée disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir, écoutez-le. »
Jésus leur dit encore, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, alors même que vous ne me croiriez pas, croyez les œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi et moi en lui. » Versets 37 et 38. Les œuvres propres de Jésus portaient le cachet divin de son Père. S'ils ne croyaient pas ses paroles, ils avaient, par ses œuvres, la preuve qu'il ne pouvait être autre que le Fils de Dieu. Ils prétendaient ne pas le lapider pour les bonnes œuvres qu'il faisait. C'était un non-sens, puisque ces œuvres-là prouvaient qu'il portait sur Jésus un jugement faux. Ils avaient sous les yeux un double témoignage de leur erreur, celui des Écritures et ses œuvres, sans parler de ses paroles. Ils auraient dû croire que le Père était en Jésus, et lui dans le Père. Au lieu de croire, il cherchait donc encore à le prendre, mais il échappa de leurs mains et s'en alla encore au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé au commencement, et il demeura là, versets 39 et 40. Jésus quitte le temple pour franchir le Jourdain et laisse les Juifs sous les conséquences terribles de leur incrédulité, car, avec la fin du chapitre 10, nous avons, d'après le plan de cet évangile, la fin du ministère public de Jésus, par lequel il prouvait aux Juifs qui il était. Les chapitres 11 et 12 présentent encore son activité, par laquelle Dieu rend un triple témoignage à son Fils, puisque les Juifs ont rejeté le sien. Nous le voyons Fils de Dieu à la résurrection de Lazare, Messie à son entrée à Jérusalem comme roi, chapitre 12, versets 9 à 19.
Une grande foule d'entre les Juifs fut donc qu'il était là et vint non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Mais les principaux sacrificateurs tinrent conseil afin de faire mourir aussi Lazare, car à cause de lui plusieurs des Juifs s'en allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant ouï dire que Jésus venait à Jérusalem, prit les rameaux des palmiers, et sortit au-devant de lui et criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Et Jésus, ayant trouvé un ânon, s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur l'ânon d'une ânesse ». Or ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui, et qu'ils avaient fait ces choses à son égard. La foule donc, qui était avec lui rendait témoignage parce qu'il avait appelé Lazare hors du sépulcre, et qu'il l'avait ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi aussi la foule alla au-devant de lui, parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens donc dirent entre eux, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. »
Et le Fils de l'homme, lorsque les Grecs désirent le voir, versets 20 à 26.
Or il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ceux-ci donc vinrent à Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, et ils le priaient, disant, « Seigneur, nous désirons voir Jésus. » Philippe vient et le dit à André, et puis André vient et Philippe, et ils le disent à Jésus. Et Jésus leur répondit, disant, « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. En vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui affectionne sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. »
Dans les chapitres 13 à 16, Jésus s'entretient avec ses disciples, au chapitre 17 avec son Père, puis vient la condamnation, la mort, la résurrection, l'apparition de Jésus aux siens, avec un enseignement symbolique, et le relèvement de Pierre. Jésus retourne au point d'où il était parti au début de son ministère, là où Jean baptisait au commencement, et demeura là, est-il dit. Il réalisait ce que dit la prophétie d'Ésaïe 49, verset 4, « J'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force pour le néant et en vain. Toutefois, mon jugement est par-devers l'Éternel, et mon œuvre par-devers mon Dieu. » Il exprime par ses paroles que, pour Israël comme peuple, son ministère a été inutile, puisque le peuple l'a rejeté. Israël sera sauvé plus tard par la foi en celui qu'il a rejeté. En attendant, on peut encore venir à lui, bien que rejeté et demeurant au-delà du Jourdain, figure de la mort. Plusieurs vinrent à lui et il disait, « Jean n'a fait aucun miracle, mais toutes les choses que Jean a dites de celui-ci étaient vraies. » Et plusieurs crurent là en lui, versets 41-42. Jésus est toujours le point d'attraction de ceux qui ont des besoins où qu'ils se trouvent. Mais lorsqu'il est rejeté de la masse, il faut s'en séparer pour aller à lui. Ceux qui crurent en lui étaient des brebis qui écoutaient sa voix. Ils crurent là en lui, dans la position que la haine des Juifs lui avait faite. Il en va de même aujourd'hui. Le salut s'obtient par la foi en un Christ rejeté, mais qui a pris place au-delà de la mort en attendant que son peuple terrestre le reçoive. Ceux qui allèrent à lui reconnaissaient le ministère de Jean le baptiseur. Jean n'avait pas fait de miracle. Il était une voix, et ce que cette voix avait dit de Jésus s'est réalisé. Il avait frayé le chemin pour arriver à lui. Chapitre 1, verset 23.
Il dit, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Faites droit le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. »
Il y a un mot très caractéristique dans cet évangile, celui de croire, qu'on y trouve 99 fois. Quelle grâce merveilleuse de Dieu! Il a voulu mettre à la disposition de la foi tous les résultats insondables de la venue de son Fils qui, par sa mort, a rendu possible et si simple le salut de pauvres pécheurs tels que nous sommes tous par nature. Que tous ceux qui auraient une tendance à raisonner sur les choses de Dieu cherche tous les passages où le verbe croire se trouve et médite sur sa signification.